Chapitre 3. Et cette opinion de la douairière de Haut-Cardon avait été acceptée. Elle avait eu force de louer sur tous ces esprits dépités et désappointés de l'inutilité de leur observation et qui ne cherchaient qu'une raison pour se rendormir. Cette opinion régnait encore, mais à la manière des rois fainéants, quand Marmor de Carloël, l'homme peut-être qui devait le moins se rencontrer dans la vie de la comtesse du Tremblay de Stasseville, vint du bout du monde s'asseoir à cette table verte où il manquait un partenaire. Il était né, racontait son Cornac Hartford, dans les montagnes de brume des îles Shetland. Il était du pays où se passe la sublime histoire de Walter Scott, cette réalité du pirate que Marmor allait reprendre en son œuvre avec des variantes dans une petite ville ignorée des côtes de la Manche. Il avait été élevé au bord de cette mer sillonnée par le vaisseau de Cleveland. Tout jeune, il avait dansé les danses du jeune Mordaunt avec les filles du vieux Troyle. Il les avait retenues et plus d'une fois, il les a dansées devant moi sur la feuille en chêne des parquets de cette petite ville prosaïque, mais digne, qui jurait avec la poésie sauvage et bizarre de ces danses hyperboréennes. À 15 ans, on lui avait acheté une lieutenance dans un régiment anglais qui allait aux Indes, et pendant 10 ans, 12 ans, il s'était battu contre les Marathes. Voilà ce qu'on apprit bientôt de lui et de Hartford, et aussi qu'il était gentilhomme, parent des fameux Douglas d'Écosse, au cœur sanglant. Mais ce fut tout. Pour le reste, on l'ignorait, et on devait l'ignorer toujours. Ses aventures aux Indes, dans ce pays grandiose et terrible, où les hommes dilatés apprennent ces manières de respirer auxquelles l'air de l'Occident ne suffit plus, il ne les raconta jamais. Elles étaient tracées en caractères mystérieux sur le couvercle de ce front d'or bruni qui ne s'ouvrait pas plus que ces boîtes à poison asiatiques gardées pour le jour de la défaite et de désastre dans l'écrin des sultans indiens. Elle se révélait par un éclair aigu de ses yeux noirs qui savait éteindre quand on le regardait, comme on souffle un flambeau quand on ne veut pas être vu, et par l'autre éclair de ce geste avec lequel il fouettait ses cheveux sur sa tempe 10 fois de suite pendant un robert de whist ou une partie d'écarté. Mais hors ces hiéroglyphes du geste et de physionomie que savent lire les observateurs et qui n'ont, comme la langue des hiéroglyphes, qu'un fort petit nombre de mots, Marmor de Carcoël était indéchiffrable, autant à sa manière que la comtesse du Tremblay l'était à la sienne. C'était un Cleveland silencieux. Tous les jeunes nobles de la ville qu'il habitait, et il y en avait plusieurs de force spirituelle, curieux comme des femmes, et entortillants comme des couleuvres, étaient démangés du désir de lui faire raconter les mémoires inédites de sa jeunesse entre 2 cigarettes de Maryland. Mais ils avaient toujours échoué. Ce lion marin des îles Hébrides, roussi par le soleil de Lahore, ne se prenait pas à ces souricières de salon offertes aux appétits de la vanité, à ces pièges à pan où la fatuité française laisse toutes ses plumes pour le plaisir de les étaler. La difficulté ne put jamais être tournée. Il était sobre comme un Turc qui croirait au Coran, espèce de muet qui gardait bien le sérail de sa pensée. Je ne l'ai jamais vu boire que de l'eau et du café. Les cartes, qui semblaient sa passion, étaient-elles sa passion réelle ou une passion qu'il s'était donnée? Car on se donne des passions comme des maladies. Était-elle une espèce d'écran qu'il semblait déplier pour cacher son âme? J'ai toujours cru quand je l'ai vu jouer comme il jouait. Il enveloppa, creusa, invétéra cette passion du jeu dans l'âme joueuse de cette petite ville, au point que, quand il fut parti, un spleen affreux, le spleen des passions trompées, tomba sur elle comme un sirocco maudit et la fit ressembler davantage à une ville anglaise. Chez lui, la table de whist était ouverte dès le matin. La journée, quand il n'était pas à la Vanillière ou dans quelque château des environs, avait la simplicité de celle des hommes qui sont brûlés par l'idée fixe. Il se levait à 9 heures, prenait son thé avec quelque ami venu pour le whist, qui commençait alors et ne finissait qu'à 5 heures de l'après-midi. Comme il y avait beaucoup de monde à ces réunions, on se relayait à chaque rubber, et ceux qui ne jouaient point pariaient. Du reste, il n'y avait que de jeunes gens à ces espèces de matinées, mais les hommes les plus graves de la ville. Des pères de famille, comme disaient les femmes de 30 ans, osaient passer leur journée dans ce tripot. Et elles beurraient, en toute occasion, d'intentions perfides, 1000 tartelettes au verjus sur le compte de cet Écossais, comme s'il avait inoculé la peste à toute la contrée dans la personne de leur mari. Elles étaient pourtant bien accoutumées à les voir jouer, mais non dans ces proportions d'obstination et de furie. Vers 5 heures, on se séparait pour se retrouver le soir dans le monde et s'y conformer, en apparence, aux jeux officiels et commandés par l'usage des maîtresses de maison, chez lesquelles on allait, mais sous main et en réalité, pour jouer le jeu convenu le matin même au whist de Carcoël. Je vous laisse à penser à quel degré de force ces hommes, qui ne faisaient plus qu'une chose, atteignirent. Ils élevèrent ce whist jusqu'à la hauteur de la plus difficile et de la plus magnifique escrime. Où il y eut sans doute des pertes fort considérables, mais ce qui empêcha les catastrophes et les ruines que le jeu traîne toujours après soi, ce furent précisément sa fureur et la supériorité de ceux qui jouaient. Toutes ces forces finissaient par s'équilibrer entre elles. Et puis, dans un rayon si étroit, on était trop souvent partenaires les uns des autres pour ne pas, au bout d'un certain temps, comme on dit en termes de jeu, se rattraper. L'influence de Marmor de Carcoël, contre laquelle regimbèrent en dessous les femmes raisonnables, ne diminua point, mais augmenta au contraire. On le conçoit. Elle venait moins de Marmor et d'une manière d'être entièrement personnelle que d'une passion qu'il avait trouvée là, vivante, et que sa présence, à lui qui la partageait, avait exaltée. Le meilleur moyen, le seul peut-être de gouverner les hommes, c'est de les tenir par leur passion. Comment ce Carcoël n'eût-il pas été puissant? Il avait ce qu'il a fait la force des gouvernements, et de plus, il ne songeait pas à gouverner. Aussi arriva-t-il à cette domination qui ressemble à un ensorcellement. On se l'arrachait. Tout le temps qu'il resta dans cette ville, il fut toujours reçu avec le même accueil, et cet accueil était d'une fiévreuse recherche. Les femmes, qui le redoutaient, aimaient mieux le voir chez elles que savoir leur fils ou leur mari chez lui, et elles le recevaient comme les femmes reçoivent, même sans l'aimer, un homme qui est le centre d'une attention, d'une préoccupation, d'un mouvement quelconque. L'été, il allait passer 15 jours, 1 mois, à la campagne. Le marquis de Saint-Alban l'avait pris sous son admiration spéciale. Protection, on ne dirait pas assez. À la campagne comme à la ville, c'était des whists éternels. Je me rappelle avoir assisté, où j'étais un écolier en vacances alors, à une superbe partie de pêche au saumon dans les eaux brillantes de la Douve, pendant tout le temps de laquelle Marmor de Carcoël joua en canot au whist à 2 morts, double demi, avec un gentilhomme du pays. Il fut tombé dans la rivière qui lui jouait encore. Seule une femme de cette société ne recevait pas l'Écossais à la campagne et à peine à la ville. C'était la comtesse du Tremblay. Qui pouvait s'en étonner? Personne. Elle était veuve et elle avait une fille charmante. En province, dans cette société envieuse et alignée où chacun plonge la vie de tous, on ne savait prendre trop de précautions contre les indications faciles à faire de ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. La comtesse du Tremblay les prenait en n'invitant jamais Marmor à son château de Stasseville et en ne le recevant à la ville que fort publiquement et les jours qu'elle recevait toutes ses connaissances. Sa politesse était pour lui froide, impersonnelle. C'était une conséquence de ces bonnes manières qu'on doit avoir avec tous, non pour eux mais pour soi. Lui, de son côté, répondait par une politesse du même genre. Et cela était si peu affecté et si naturel dans tous les deux qu'on a pu y être pris pendant 4 ans. Je l'ai déjà dit, hors le jeu, Carcoël ne semblait pas exister. Il parlait peu. S'il avait quelque chose à cacher, il le couvrait très bien de ses habitudes de silence. Mais la comtesse avait-elle, si vous vous rappelez, l'esprit très extérieur et très mordant. Pour ces sortes d'esprits toujours en dehors, brillants, agressifs, se retenir, se voiler est chose difficile. Se voiler, n'est-ce pas même une manière de se trahir? Seulement, si elle avait les écailles fascinantes et la triple langue du serpent, elle en avait aussi la prudence. Rien donc n'altéra l'éclat et l'emploi féroce de sa plaisanterie habituelle. Souvent, quand on parlait de Carcoël devant elle, elle lui décochait de ces mots qui sifflent et qui percent, et que Mademoiselle de Beaumont, sa rivale d'épigramme, lui enviait. Si ce fut là un mensonge de plus, jamais mensonge ne fut mieux osé. Tenait-elle cette effrayante faculté de dissimuler de son organisation sèche et contractile? Mais pourquoi s'en servait-elle, elle, l'indépendance en personne, par sa position et la fierté et moqueuse du caractère? Pourquoi, si elle aimait Carcoël ou si en était aimée, le cachait-elle sous les ridicules qu'elle lui jetait d'un temps à autre, sous ces plaisanteries apostates, renégates, impies, qui dégradent l'idole adorée, les plus grands sacrilèges en amour? Bon Dieu, qui sait, il y avait peut-être en tout cela du bonheur pour elle. Si l'on jetait, docteur, fit le narrateur en se tournant vers le docteur Baylasset, qui était accoudé sur un meuble de boule, et dont le beau crâne chauve renvoyait la lumière d'un candélabre que les domestiques venaient en cet instant d'allumer au-dessus de sa tête, si l'on jetait sur la comtesse de Stasville un de ces bons regards physiologistes, comme vous en avez, vous autres médecins, et que le moraliste devrait vous emprunter, il est évident que tout dans les impressions de cette femme devait rentrer, porter en dedans, comme cette ligne hortensia passée qui formait ses lèvres, tant elle les rétractait, comme ses ailes du nez qui se creusaient au lieu de s'épanouir, immobiles et non pas frémissantes, comme ses yeux qui à certains moments se renfonçaient sur leurs arcades sourcilières et semblaient remonter vers le cerveau. Malgré son apparente délicatesse et une souffrance physique dont on suivait l'influence visible dans tout son être, comme on suit les rayonnements d'une fêlure dans une substance trop sèche, elle était le plus frappant diagnostic de la volonté, de cette pile de volta intérieure à laquelle aboutissent nos nerfs. Tout l'attestait en elle plus qu'en qu'un autre être vivant que j'ai jamais rencontré et contemplé. Cet influx de la volonté sommeillante circulait, comme on passe le mot car il est bien pédant, puissantiellement jusque dans ses mains aristocratiques et princières, pour la blancheur mate, l'opale irisée des ongles et l'élégance, mais qui, pour la maigreur, le gonflement et l'implication des 1000 torsades bleuâtres des veines, et surtout pour le mouvement d'appréhension avec lequel elle saisissait les objets, ressemblaient à des griffes fabuleuses, comme l'étonnante poésie des anciens en attribuait à certains monstres au visage et au sein de femmes. Quand, après avoir lancé une de ces plaisanteries, un de ces traits étincelants et fins, comme les arêtes empoisonnées dont se servent les sauvages, elle passait le bout de sa langue vipérine sur ses lèvres sibilantes, et on sentait que dans une grande occasion, dans le dernier moment de la destinée par exemple, cette femme frêle et forte tout ensemble était capable de deviner le procédé des nègres et de pousser la résolution jusqu'à avaler cette langue si souple pour mourir. À la voir, on ne pouvait douter qu'elle ne fût en femme une de ces organisations comme il y en a dans tous les règnes de la nature, qui, de préférence ou d'instinct, recherchent le fond au lieu de la surface des choses. Un de ces êtres destinés à des cohabitations occultes, qui plongent dans la vie comme les grands nageurs plongent et nagent sous l'eau, comme les mineurs respirent sous la terre, passionnés pour le mystère, en raison même de leur profondeur, le créant autour d'elle et l'aimant jusqu'au mensonge. Car le mensonge, c'est du mystère redoublé, des voiles épaissis, des ténèbres faites à tout prix. Peut-être ces sortes d'organisations aiment-elles le mensonge, pour le mensonge, comme on aime l'art pour l'art, comme les Polonais aiment les batailles. Le docteur inclina gravement la tête en signe d'adhésion. Vous le pensez, n'est-ce pas? Et moi aussi. Je suis convaincu que pour certaines âmes, il y a le bonheur de l'imposture. Il y a une effroyable et enivrante félicité dans l'idée qu'on ment et qu'on trompe, dans la pensée qu'on ne sait seul soi-même et qu'on joue à la société une comédie dont elle est la dupe et dont on se rembourse les frais de mise en scène par toutes les voluptés du mépris. Mais c'est affreux ce que vous dites là, interrompit tout à coup la baronne de Montcrani avec le cri de la loyauté révoltée. Toutes les femmes qui écoutaient, il y en avait peut-être quelques-unes connaisseuses en plaisir caché, avaient éprouvé comme un frémissement aux dernières paroles du conteur. J'en jugeais au dos nu de la comtesse de Damaglia, alors si près de moi. Cette espèce de frémissement nerveux, tout le monde le connaît et l'a ressenti. On l'appelle quelquefois avec poésie la mort qui passe. Était-ce alors la vérité qui passait? Oui, répondit le narrateur, c'est affreux, mais est-ce vrai? Les natures au cœur sur la main ne se font pas l'idée des jouissances solitaires de l'hypocrisie, de ceux qui vivent et peuvent respirer la tête lancée dans un masque. Mais quand on y pense, ne comprend-on pas que leur sensation est réellement la profondeur enflammée de l'enfer? Or, l'enfer, c'est le ciel en creux. Le mot diabolique ou divin appliqué à l'intensité des jouissances exprime la même chose, c'est-à-dire des sensations qui vont jusqu'au surnaturel. Madame de Stasville était-elle de cette race d'âme? Bon, je ne l'accuse ni ne la justifie. Je raconte comment je peux son histoire, que personne n'a bien su, et je cherche à l'éclairer par une étude à la Cuvier, sur sa personne, voilà tout. Du reste, cette analyse que je fais maintenant de la comtesse du Tremblay, sur le souvenir de son image empreinte dans ma mémoire, comme un cachet d'onyx fouillé par un burin profond de sur de la cire, je ne le faisais point alors. Si j'ai compris cette femme, ce n'a été que bien plus tard. La toute-puissante volonté qu'à la réflexion j'ai reconnue en elle, depuis que l'expérience m'a appris à quel point le corps et la moulure de l'âme n'avaient pas plus soulevé et tendu cette existence encaissée dans de tranquilles habitudes, que la vague de nom gonfle et trouble un lac de mer fortement encaissé dans ses bords. Ça l'arrivée de Carcoël, de cet officier d'infanterie anglaise, que des compatriotes avaient engagé à aller manger sa demi-solde dans une ville normande, digne d'être anglaise, la débile et pâle moqueuse, qu'on appelait en riant Madame de Givre, n'aurait jamais su en elle-même quel impérieux vouloir elle portait dans son sein de neige fondue, comme disait Mademoiselle Ernestine de Beaumont, mais sur lequel, au moral, tout avait glissé, comme sur le plus dur des mamelons de glace polaire. Et quand il arriva, qu'éprouva-t-elle ? Apprit-elle tout à coup que, par une nature comme la sienne, sentir fortement ses vouloirs ? Entraîna-t-elle par la volonté un homme qui ne semblait plus devoir aimer que le jeu ? Comment s'y prit-elle pour réaliser une intimité dont il est difficile en province d'esquiver les dangers ? Tous mystères restaient-elles à jamais ? Mais qui soupçonnait plus tard n'avait encore été pressenti par personne à la fin de l'année 1829. Et cependant, à cette époque, dans un des hôtels les plus paisibles de cette ville, où le jeu était la plus grande affaire de chaque journée et presque de chaque nuit, sous les persiennes silencieuses et les rideaux de mousseline brodée, voile pur, élégant et à moitié relevé d'une vie calme, il devait y avoir depuis longtemps un roman qu'on aurait juré impossible. Oui, le roman était à cette vie correcte, irréprochable, réglée, moqueuse, froide jusqu'à la maladie, où l'esprit semblait tout et l'âme rien. Il y était et la rongeait, sous les apparences de la renommée, comme les vers qui seraient au cadavre d'un homme avant qu'il ne fût expiré. Oh, quelle abominable comparaison ! Fit encore observer la baronne de Mascarani. Ma pauvre Sibylle avait presque raison de ne pas vouloir de votre histoire. Décidément, vous avez un vilain genre d'imagination ce soir. Oh, voulez-vous que je m'arrête ? Répondit le conteur avec une sournoise courtoisie et la petite rouerie d'un homme sûr de l'intérêt qu'il a fait naître. Oh, par exemple, reprit la baronne, est-ce que nous pouvons rester maintenant l'attention en l'air avec une moitié d'histoire ? Oh, ce serait aussi par trop fatigant, dit en défrisant de ses longues anglaises d'un beau noir bleu, Mademoiselle Laure d'Alzane, la plus languissante image de la paresse, heureuse avec le gracieux effroi de sa nonchalance menacée. Et désappointant en plus, ajouta gaiement le docteur. Ne serait-ce pas comme si un coiffeur, après vous avoir rasé un côté du visage, fermait tranquillement son rasoir et vous signifiait qu'il lui est impossible d'aller plus loin. Je reprends donc, reprit le conteur avec la simplicité de l'art suprême, qui consiste surtout à se bien cacher. Donc en 1820, j'étais dans le salon d'un de mes oncles, maire de cette petite ville que je vous ai décrite comme la plus antipathique aux passions et à l'aventure, et quoique ce fût un jour solennel, la fête du roi, Saint-Louis, toujours grandement fêtée par ces ultras de l'immigration, par ces quiétistes politiques qui avaient inventé le mot mystique de l'amour pur, vive le roi quand même ! On ne faisait dans ce salon rien de plus que ce qu'on y faisait tous les jours. On y jouait. Je vous demande bien pardon de vous parler de moi, c'est d'assez mauvais goût, mais il le faut. J'étais un adolescent encore. Cependant, grâce à une éducation exceptionnelle, je soupçonnais plus des passions et du monde qu'on en soupçonne d'ordinaire à l'âge que j'avais. Je ressemblais moins à un de ces collégiens pleins de gaucheries qui n'ont rien vu que dans leurs livres de classe qu'à une de ces jeunes filles curieuses qui s'instruisent en écoutant aux portes et en rêvant beaucoup de sur ce qu'elles y ont entendu. Toute la ville se pressait ce soir-là dans le salon de mon oncle, et comme toujours, car il n'y avait que des choses éternelles dans ce monde de momies qui ne secouaient leurs bandelettes que pour agiter des cartes, Cette société se divisait en deux parties. La partie qui jouait et les jeunes filles qui ne jouaient pas. Momies aussi que ces jeunes filles qui devaient se ranger les unes auprès des autres dans les catacombes du célibat, mais dont les visages, éclatants d'une vie inutile et d'une fraîcheur qui ne saurait pas respirer, enchantaient mes avides regards. Parmi elles, il n'y avait peut-être que Mademoiselle Hermine de Stazeville, à qui la fortune eût permis de croire à ce miracle d'un mariage d'amour sans déroger. Mais n'était pas assez âgée, ou je l'étais trop, pour me prêter à cet essaim de jeunes personnes dont les chuchotements s'entrecoupaient de temps à autre d'un rire bien franc ou doucement contenu. En proie à ces brûlantes timidités qui sont en même temps des voluptés et des supplices, je m'étais réfugié assis auprès du dieu du Chelem, ce marmor de Carcoël, pour lequel je m'étais pris de belles passions. Il ne pouvait y avoir entre lui et moi d'amitié, mais les sentiments, leur hiérarchie secrète. Il n'est pas rare de voir dans les êtres qui ne sont pas développés de ces sympathies que rien de positif, de démontré n'explique, et qui font comprendre que les jeunes gens ont besoin de chefs comme les peuples qui, malgré leur âge, sont toujours un peu des enfants. Mon chef, à moi, eût été Carcoël. Il venait souvent chez mon père, grand joueur comme tous les hommes de cette société. Il s'était souvent mêlé à nos récréations gymnastiques, à mes frères et à moi, et il avait déployé devant nous une vigueur et une souplesse qui tenaient du prodige. Comme le duc d'Enghien, il sautait en se jouant une rivière de 17 pieds. Cela seul, sans doute, avait exercé sur la tête de jeunes gens comme nous, élevés pour devenir des hommes de guerre, un grand attrait de séduction. Mais là n'était pas le secret pour moi de l'aimant de Carcoël. Il fallait qu'il agisse sur mon imagination avec la puissance des êtres exceptionnels, sur les êtres exceptionnels, car la vulgarité préserve des influences supérieures comme un sac de laine préserve des coups de canon. Je ne saurais dire quel rêve j'attachais à ce front qu'on crut sculpter dans cette substance que les peintres d'aquarelle appellent terre de Sienne. À ses yeux sinistres, aux paupières courtes, à toutes ces marques que des passions inconnues avaient laissées sur la personne de l'Écossais, comme les quatre coups de barre du bourreau aux articulations d'un roué, et surtout à ces mains d'un homme de plus amolli de civilisé chez qui le sauvage finissait au poignet, et qui savait imprimer aux cartes cette vélocité de rotation qui ressemblait au tournoiement de la flamme et qui avait tant frappé Herminie de Sasseville la première fois qu'elle l'avait vue. Or, ce soir-là, dans l'angle où se dressait la table de jeu, la persienne était à moitié fermée. La partie était sombre comme l'espèce de demi-jour qui l'éclairait. C'était le whist des forts. Le Mathusalem des marquis, monsieur de Saint-Alban, était le partenaire de Marmor. La comtesse du Tremblay avait pris pour le sien le chevalier de Tarsis. Officier au régiment de Provence avant la Révolution et chevalier de Saint-Louis. Un de ces vieillards, comme il n'y en a plus debout maintenant, un de ces hommes qui furent à cheval sur deux siècles, sans être pour cela des colosses. À un certain moment de la partie, et par le fait d'un mouvement de Madame du Tremblay de Stazeville pour relever ses cartes, une des pointes du diamant qui brillait à son doigt rencontra dans cette ombre projetée par la persienne sur la table verte qu'elle rendait plus verte encore, un de ces chocs de rayons intersectés par la pierre, comme il est impossible à l'art humain d'en combiner, et il en jaillit un dard de feu blanc, tellement électrique, qu'il fit presque mal aux yeux comme un éclair. qu'est-ce qui brille ?» dit d'une voix flûtée le chevalier de Tarsis qui avait la voix de ses jambes. « Et qu'est-ce qui tousse ?» dit simultanément le marquis de Saint-Alban, tiré par une toux horriblement mate de sa préoccupation de joueur, en se retournant vers Hermine qui brodait une collerette à sa mère. « C'est mon diamant et c'est ma fille !» fit la comtesse du Tremblay avec un sourire de ses lèvres minces en répondant à tous les deux. « Mon Dieu, comme il est beau, votre diamant, madame !» reprit le chevalier. « Oh, jamais je l'avais vu étinceler comme ce soir. Il forcerait les plus myopes à le remarquer. » On était arrivé, en disant cela, à la fin de la partie, et le chevalier de Tarsis prit la main de la comtesse. « Voulez-vous permettre ?» ajouta-t-il. La comtesse ôta languissamment sa bague et la jeta au chevalier sur la table de jeu. Le vieil émigré l'examina en la tournant devant son œil comme un kaléidoscope. Mais la lumière a ses hasards et ses caprices. En roulant sur les facettes de la pierre, elle n'en détacha pas un second jet de lumière nuancée semblable à celui qui venait si rapidement d'en jaillir. Herminie se leva et poussa la persienne afin que le jour tombât mieux sur la bague de sa mère et qu'on en pût mieux apprécier la beauté. Et elle se rassit, le coude à la table, regardant aussi la pierre prismatique. Mais la toux revint, une toux sifflante qui lui rougit et lui injecta la nacre de ses beaux yeux bleus d'un humide radical si pur. « Et où avez-vous pris cette affreuse toux, ma chère enfant ?» dit le marquis de Saint-Alban, plus occupé de la jeune fille que de la bague du diamant humain que du diamant minéral. « Oh, je ne sais, monsieur le marquis, » fit-elle avec la légèreté d'une jeunesse qui croyait à l'éternité de la vie. « Peut-être un peu promener le soir au bord de l'étang de Stasville. » Je fus frappé alors du groupe qu'ils formaient à eux quatre. La lumière rouge du couchant immergeait par la fenêtre ouverte. Le chevalier de Tarsis regardait le diamant. Monsieur de Saint-Alban, Herminie, Madame du Tremblay, Carcoël, qui regardait d'un œil distrait sa dame de carreau. Mais ce qui me frappa surtout, ce fut Herminie, la rose de Stasville, et elle est pâle, plus pâle que sa mère. La pourpre du jour mourant qui versait son transparent reflet sur ses joues pâles lui donnait l'air d'une tête de victime, réfléchie dans un miroir qu'on aurait dit étamé avec du sang. Tout à coup, j'eus froid dans les nerfs, et par je ne sais quelle évocation foudroyante et involontaire, un souvenir me saisit avec l'indicible brutalité de ces idées qui fécondent monstrueusement la pensée révoltée en la violant. Il y avait 15 jours à peu près qu'un matin, j'étais allé chez Marmor de Carcoël. Je l'avais trouvé seul, il était de bonne heure. Nul des joueurs qui d'ordinaire jouaient le matin chez lui n'était arrivé. Il était, quand j'entrais, debout devant son secrétaire, et il semblait occupé d'une opération fort délicate qui exigeait une extrême attention et une grande sûreté de main. Je ne le voyais pas, sa tête était penchée. Il tenait entre les doigts de sa main droite un petit flacon d'une substance noire et brillante qui ressemblait à l'extrémité d'un poignard cassé. Et de ce flacon microscopique, il épanchait je ne sais quel liquide dans une bague ouverte. « Oh, que diable faites-vous là ?» lui dis-je en m'avançant. Mais il me cria avec une voix impérieuse. « Oh, n'approchez pas ! Restez où vous êtes ! Vous me feriez trembler la main. Et ce que je fais est plus difficile et plus dangereux que de caser à 40 pas un tire-bouchon avec un pistolet qui pourrait crever. » C'était une allusion à ce qui nous était arrivé il y avait quelque temps. Nous nous amusions à tirer avec les plus mauvais pistolets qu'il nous fut possible de trouver, afin que l'habileté de l'homme se montrât mieux dans la faiblesse de l'instrument, et nous avions failli nous ouvrir le crâne avec le canon d'un pistolet qui creva. Il parut insinuer les gouttes du liquide inconnu qu'il laissait tomber du bec effilé de son flacon. Quand ce fut fait, il ferma la bague et la jeta dans un des tiroirs de son secrétaire, comme s'il avait voulu la cacher. Je m'aperçus qu'il avait un masque de verre. « Depuis quand, lui dis-je en plaisantant, vous occupez-vous de chimie ? Et sont des ressources contre les pertes au whist que vous composez ? Oh, je ne compose rien, me répondit-il. Mais ce qui est là-dedans, et il montrait le flacon noir, est une ressource contre tout. C'est, ajouta-t-il avec la sombre gaieté du pays des suicides d'où il était, c'est le jeu de cartes biseauté avec lequel on est sûr de gagner la dernière partie contre le destin. Mais quelle espèce de poison, lui demandai-je en prenant le flacon dont la forme bizarre m'attirait. Oh, c'est le plus admirable des poissons indiens, me répondit-il en ôtant son masque. Le respirer peut être mortel. Et de quelque manière qu'on l'absorbe, s'il ne tue pas immédiatement, vous ne perdrez rien pour attendre. Son effet est aussi sûr qu'il est caché. Il attaque lentement, ou presque languissamment, mais infailliblement, la vie dans ses sources, en les pénétrant et en développant au fond des organes sur lesquels il se jette, de ces maladies connues de tous et dont les symptômes, familiers à la science, dépayseraient le soupçon et répondraient à l'accusation d'empoisonnement, si une telle accusation pouvait exister. On dit aux Indes que des fakirs mendiants le composent avec des substances extrêmement rares, que seuls connaissent et qu'on ne trouve que sur les plateaux du Tibet. Il dissout les liens de la vie, puisqu'il ne les rompt. Dans cela, il convient davantage à ces natures d'Indiens apathiques et molles, qui aiment la mort comme un sommeil et s'y laissent tomber comme sur un lit de loto. Il est fort difficile, du reste, presque impossible de s'en procurer. Si vous saviez ce que j'ai risqué pour obtenir ce flacon d'une femme qui disait m'aimer. J'ai un ami comme moi, officier dans l'armée anglaise, est revenu comme moi des Indes où il a passé 7 ans. Il a cherché ce poison avec le désir furieux d'une fantaisie anglaise. Et plus tard, quand vous aurez vécu davantage, vous comprendrez ce que c'est. Eh bien, il n'a jamais pu en trouver. Il a acheté au prix de l'or, d'indigne contrefaçon. Et de désespoir, il m'a écrit d'Angleterre. Il m'a envoyé une de ses bagues en me suppliant d'y verser quelques gouttes de ce nectar de la mort. Voilà ce que je faisais quand vous êtes entré. Ce qu'il me disait ne m'étonnait pas. Les hommes sont ainsi faits que sans aucun mauvais dessein, sans pensée sinistre, ils aiment avoir du poison chez eux comme ils aiment avoir des armes. Ils thésaurisent les moyens d'extermination autour d'eux comme les avares thésaurisent les richesses. Les uns disent « Oh, si je voulais détruire comme les autres, si je voulais jouir, c'est le même idéalisme d'enfantin. Enfant moi-même, à cette époque, je trouvais tout simple que Marmor de Carcoël, revenu des Indes, possédât cette curiosité d'un poison, comme il n'en existe pas ailleurs, et parmi ses kanjars et ses flèches apportées au fond de sa malle d'officier, ce flacon de pierre noire, cette jolie babiole de destruction qu'il me montrait. Quand j'eus bien tourné et retourné ce bijou, poli comme une agate, qu'une almée peut-être avait porté entre les deux globes de topaz de sa poitrine, et dans la substance poreuse dans laquelle elle avait imprégné sa sueur d'or, je le jetai dans une coupe posée sur la cheminée, je n'y pensais plus. Eh bien, le croiriez-vous, c'était le souvenir de ce flacon qui me revenait. la figure souffrante d'Herminie, sa parole, pâleur, cette toux qui semblait sortir d'un poumon spongieux, ramolli, ou déjà peut-être s'envenimait ces lésions profondes que la médecine appelle, n'est-ce pas, docteur, dans un langage plein d'épouvantement pittoresque, des cavernes. Cette bague, qui par une coïncidence inexplicable, brillait tout à coup d'un éclat si étrange au moment où la jeune fille toussait, comme si le scintillement de la pierre homicide eût été la palpitation de joie du meurtrier. Les circonstances d'une matinée qui étaient effacées de ma mémoire, mais qui reparaissaient tout à coup, voilà ce qui m'afflua comme un flot de pensées au cerveau. De liens pour attacher les circonstances passées à l'heure présente, je n'en avais pas. Mais le rapprochement involontaire qui se faisait dans ma tête était insensé. J'avais horreur de ma propre pensée. Aussi m'efforçais-je d'étouffer, d'éteindre en moi cette fausse lueur, ce flamboiement qui s'était allumé, qui avait passé dans mon âme comme l'éclair de ce diamant qui était passé sur cette table verte. Pour appuyer ma volonté et broyer sous elle la folle et criminelle croyance d'un instant, je regardais attentivement Marmor de Carcoël et la comtesse de Tremblay. Ils répondaient très bien l'un à l'autre par leur attitude et leur visage que ce que j'avais osé penser était impossible. Marmor était toujours Marmor. Il continuait de regarder sa dame de carreau comme si elle eût représenté l'amour dernier et définitif de toute sa vie. Madame du Tremblay, de son côté, avait sur le front, dans les lèvres, dans le regard, le calme qui ne la quittait jamais, même quand elle ajustait l'épigramme, car sa plaisanterie ressemblait à une balle, la seule arme qui tue sans se passionner, tandis que l'épée, au contraire, partage la passion de la main. Elle et lui, lui et elle, étaient deux abîmes placés l'un en face de l'autre. Seulement l'un, Carcoël, était noir et ténébreux comme la nuit, et l'autre, cette femme pâle, était claire et inscrutable comme l'espace. Elle tenait toujours sur son partenaire des yeux indifférents et qui brillaient d'une impassible lumière. Seulement comme le chevalier de Tarsis n'en finissait pas d'examiner la bague qui renfermait le mystère que j'aurais voulu pénétrer, elle avait pris à sa ceinture un gros bouquet de réséda et elle se mit à le respirer avec une sensualité qu'on n'eût certes pas attendue d'une femme comme elle, si peu faite pour les rêveuses voluptés. Ses yeux se fermèrent après avoir tourné dans je ne sais quel pâmoison indicible, et d'une passion avide, elle saisit avec ses lèvres effilées et incolores plusieurs tiges de fleurs odorantes, et elle les broya sous ses dents avec une expression idolâtre et sauvage, les yeux rouverts sur Carcoël. Était-ce un signe, une entente quelconque, une complicité, commandant les amants entre eux, que ces fleurs mâchées et dévorées en silence? Franchement, je le crus. Elle remit tranquillement la bague à son doigt, quand le chevalier l'eut assez admiré, et le whist continua, renfermé, muet et sombre, comme si rien ne l'avait interrompu. Ici encore, le compteur s'arrêta. Oh, il n'avait plus besoin de se presser. Il nous tenait tous sous la grippe de son récit. Peut-être tout le mérite de son histoire était-il dans la manière de la raconter. Quand il se tut, on entendit dans le silence du salon aller et venir les respirations. Moi, qui allongeais mes regards par-dessus mon rempart d'albâtre, l'épaule de la comtesse de Lamaglia, je vis l'émotion marbrée de ses nuances diverses, tous ses visages. Involontairement, je cherchais celui de la jeune Sibylle, de la sauvage enfant qui s'était calmée au premier mot de cette histoire. J'eusse aimé avoir passé les éclairs de la transe dans ses yeux noirs qui font penser aux ténébreux et sinistre canal Orfano à Venise, car il ne s'y noira plus d'un cœur. Mais elle n'était plus sur le canapé de sa mère. Inquiète de ce qui allait suivre, la sollicitude de la baronne avait sans doute fait à sa fille quelques signes de furtive départie et elle avait disparu. En fin de compte, reprit le narrateur, qu'y avait-il dans tout cela qui fit de nature à m'émouvoir si fort et à se graver dans ma mémoire comme une eau forte, car le temps n'a pas effacé un seul délinéament de cette scène. Je vois encore la figure de Marmor, l'expression du calme cristallisé de la comtesse, se fondant pour une minute dans la sensation de ses résédas respirés et triturés avec un frissonnement presque voluptueux. Oh oui, tout cela m'est resté. Et vous allez comprendre pourquoi. Ces faits dont je ne voyais pas très bien la relation entre eux, ces faits mal éclairés d'une intuition que je me reprochais dans les chevaux entortillés desquels le possible et l'incompréhensible apparaissaient, reçurent plus tard une goutte de lumière qui en dépouilla pour jamais en moi le chaos. Je vous ai dit, je crois, que j'avais été mis fort tard au collège. Les deux dernières années de mon éducation s'y écoulèrent sans que je revinsse dans mon pays. Ce fut donc au collège que j'appris, par les lettres de ma famille, la mort de Mademoiselle Herminie de Stasville, victime d'une maladie de langueur dont personne ne s'était douté qu'à la dernière extrémité et quand la maladie avait été incurable. Cette nouvelle qu'on me transmettait sans aucun commentaire me glaça le sang du même froid que j'avais senti lorsque, dans le salon de mon oncle, j'avais entendu pour la première fois cette toux qui sonnait la mort et qui avait dressé en moi tout à coup de si épouvantables inductions. Ceux qui ont l'expérience des choses de l'âme me comprendront quand je dirai que je n'osais pas faire une seule question sur cette perte soudaine d'une jeune fille, enlevée à l'affection de sa mère et aux plus belles espérances de la vie. J'y pensais d'une manière trop tragique pour en parler à qui que ce fût. Revenu chez mes parents, je trouvais la ville de bien changée, car en plusieurs années, les villes changent comme les femmes, on ne les reconnaîtrait plus. C'était après 1830. Depuis le passage de Charles X qu'il avait traversé pour aller s'embarquer à Cherbourg, la plupart des familles nobles que j'avais connues pendant mon enfance vivaient retirées dans les châteaux circonvoisins. Les événements politiques avaient frappé d'autant plus ces familles qu'elles avaient cru à la victoire de leur parti et qu'elles étaient retombées d'une espérance. En effet, elles avaient vu le moment où le droit d'aînesse, relevé par le seul homme d'État qu'ait vu la Restauration, allait rétablir la société française sur la seule base de sa grandeur et de sa force. Puis, tout à coup, cette idée doublement juste de justesse et de justice qui avait brillé au regard de ces hommes, dupes sublimes de leur dévouement monarchique, comme un dédommagement à leur souffrance et à leur ruine, comme un dernier lambeau de verre et d'hermine qui doubla leur cercueil et rendit moins dur leur dernier sommeil, périr sous le coup d'une opinion publique qu'on n'avait su ni éclairer ni discipliner. La petite ville dont il a été si souvent question dans ce récit n'était plus qu'un désert de persiennes fermées et de portes cochères qui ne s'ouvraient plus. La révolution de juillet avait effrayé les Anglais, et ils étaient partis d'une ville dont les mœurs et les habitudes avaient reçu des événements une si forte rupture. Mon premier soin m'était été de demander ce qu'était devenu M. Marmor de Kercoal. On me répondit qu'il était retourné aux Indes sur un ordre de son gouvernement. La personne qui me dit cela était précisément cet éternel chevalier de Tarsis, l'un des quatre de la fameuse partie du diamant. Fameuse, enfin, du moins, elle l'était pour moi. Et son œil, en me renseignant, se fixa sur les miens avec l'expression d'un homme qui veut être interrogé. Aussi, mais presque involontairement, car les âmes se devinent bien autant que la volonté n'est agie. « Et Madame du Tremblay de Sasseville, lui dis-je. Ah, vous saviez donc quelque chose, me répondit-il assez mystérieusement, comme si nous avions eu 100 paires d'oreilles à nous écouter et nous étions seuls. Mais non, lui dis-je, je ne sais rien. Mais elle est morte, reprit-il. De la poitrine, comme sa fille, un mois après le départ de ce diable de Marmont de Carcoël. Et pourquoi cette date, dis-je alors, et pourquoi me parlez-vous de Marmont de Carcoël? Oh, c'est donc la vérité, répondit-il, que vous ne savez pas. Eh bien, mon cher, il paraît qu'elle était sa maîtresse. Du moins, l'a-t-on fait entendre ici quand on parlait à voix basse. À présent, on n'ose plus en parler. C'était une hypocrite de premier ordre que cette comtesse. Elle l'était comme on est blonde ou brune. Elle était née cela. Aussi pratiquait-elle le mensonge au point d'en faire une vérité, tant elle était simple et naturelle, sans effort et sans affectation en tout. À travers une habileté si profonde qu'on a su que depuis bien peu de temps que c'en était une, il a transpiré des bruits bientôt étouffés par la terreur qui les transmettait. À les entendre, cet Écossais, qui n'est que les cartes, n'a pas été seulement l'amant de la comtesse, laquelle ne le recevait jamais chez elle, comme tout le monde, et mauvaise comme le démon. Lui campait son épigramme comme à pas nous quand l'occasion s'en présentait. Oh, ceci ne serait rien, si avec cela. Mais le pire, dit-on, que le dieu du Schlemm avait fait Schlemm toute la famille. Cette pauvre petite Herminie l'adorait en silence. Mademoiselle Ernestine de Beaumont vous le dira, si vous le voulez. C'était comme une fatalité. Et lui, l'aimait-il? Oh, aimait-il la mère? Les aimait-il toutes les deux? Ne les aimait-il ni l'une ni l'autre? Trouvait-il seulement la mère bonne pour entretenir sa mise au jeu? Qui sait? Ici, l'histoire est fort obscure. Tout ce qu'on certifie, c'est que la mère, dont l'âme était aussi sèche que le corps, s'était prise d'une haine pour sa fille, qui n'a pas peu contribué à la faire mourir. « On dit cela, repris-je, plus épouvanté d'avoir pensé juste que je ne l'avais été d'avoir pensé faux. Mais qui peut savoir cela? Carcoël n'était pas un fat. Ce n'est pas lui qui se serait permis des confidences. On n'a jamais pu rien savoir de sa vie. Il n'aura pas commencé d'être confiant ou indiscret à propos de la comtesse de Stasville. « Non, répondit le chevalier de Tarsis. Les deux hypocrites faisaient la paire. Il est parti comme il est venu, sans qu'aucun de nous ait pu dire il était autre chose qu'un joueur. Mais, si parfaite de ton et de tenue que fut dans le monde l'irréprochable comtesse, les femmes de chambre, pour lesquelles il n'est point d'héroïne, ont raconté qu'elle s'enfermait avec sa fille et qu'après de longues heures de tête à tête, elle sortait plus pâle l'une que l'autre. Mais la fille, toujours davantage, les yeux abîmés de pleurs. Vous n'avez pas d'autres détails, d'autres certitudes, chevalier ? Lui dis-je pour le pousser et voir plus clair. Mais vous n'ignorez pas que ce sont des propos de femme de chambre. On en saurait probablement davantage par Mademoiselle de Beaumont. Mademoiselle de Beaumont, oh, fit le Tarsis. Elle s'aimait pas, la comtesse et elle. Car c'était le même genre d'esprit toutes les deux. Aussi la suivante ne parle-t-elle de la morte qu'avec des yeux imprécatoires et des réticences perfides. Il est sûr qu'elle veut faire croire les choses les plus atroces, et qu'elle n'en sait qu'une qui ne l'est pas. l'amour d'Herminie pour Carcoël. Et ce n'est pas savoir grand-chose, chevalier, repris-je. Si on savait toutes les confidences que se font les jeunes filles entre elles, on mettrait sur le compte de l'amour la première rêverie venue. Or, vous avouerez qu'un homme comme ce Carcoël avait bien tout ce qui fait rêver. C'est vrai, dit le vieux Tarsis, mais on n'a plus que des confidences de jeunes filles. Vous rappelez-vous, oh non, vous étiez trop enfant, mais on l'a assez remarqué dans notre société. Vous rappelez-vous que Madame Strasville, qui n'avait jamais rien aimé, pas plus les fleurs que tout le reste, car je défie de pouvoir dire quels étaient les goûts de cette femme-là, portait toujours vers la fin de sa vie un bouquet de réséda à sa ceinture, et qu'en jouant au whist et partout elle en rompait les tiges pour les mâchonner. Si bien qu'un beau jour, Mademoiselle de Beaumont demanda à Herminie avec une petite roulade de raillerie dans la voix, depuis quand sa mère était herbivore. Ben oui, je m'en souviens, lui répondis-je. Et de fait, je n'avais jamais oublié la manière fauve et presque amoureusement cruelle dont la comtesse avait respiré et mangé les fleurs de son bouquet à cette partie de whist, qui avait été pour moi un événement. Eh bien, fit le bonhomme. Ces réséda venaient d'une magnifique jardinière que Madame Stasville avait dans son salon. Oh, le temps n'était plus où les odeurs lui faisaient mal. Nous l'avions vu ne pouvoir les souffrir depuis ses dernières couches, pendant lesquelles on avait failli la tuer. Nous comptait-elle langoureusement avec un bouquet de tubéreuses. Oh, à présent, elle les aimait et les recherchait avec fureur. Son salon asphyxiait comme une serre dont on n'a pas encore soulevé les vitrages à midi. À cause de cela, deux ou trois femmes délicates n'allaient plus chez elle. C'était là des changements. Mais on les expliquait par la maladie et par les nerfs. Et une fois morte, et quand il a fallu fermer son salon, car le tuteur de son fils a fourré au collège ce petit imbécile, que voilà, riche, comme doit être un sot, on a voulu mettre ces beaux résédas en pleine terre. Et on a trouvé dans la caisse, devinez quoi, le cadavre d'un enfant qui avait vécu. Le narrateur fut interrompu par le cri très vrai de deux ou trois femmes, pourtant bien brouillées avec le naturel. Depuis longtemps, il les avait quittés, mais, ma foi, pour cette occasion, il leur revint. Les autres, qui se dominaient davantage, ne se permirent qu'un haut le corps, mais il fut presque convulsif. « Quel oubli et quelle oubliette !» fit alors, avec sa légèreté qui rit de tout, cette aimable petite pourriture ambrée, le marquis de Gourde, que nous appelons le dernier des marquis, un de ces êtres qui plaisanterait derrière un cercueil et même dedans. D'où venait cet enfant ? Ajouta le chevalier de Tarsis, en pétrissant son tabac dans sa boîte d'écaille. De qui était-il ? Était-il mort de mort naturelle ? L'avait-on tué ? Qui l'avait tué ? Voilà ce qu'il est impossible de savoir, et ce qui fait faire, mais bien bas, des suppositions épouvantables. « Vous avez raison, chevalier, lui répondis-je, renforçant en moi plus avant ce que je croyais savoir de plus que lui. Ce sera toujours un mystère, et même qu'il sera bon d'épaissir jusqu'au jour où l'on n'en soufflera plus un seul mot. « En effet, dit-il, il n'y a que deux êtres au monde qui savent réellement ce qu'il en est. Il n'est pas probable qu'ils le publient, ajouta-t-il avec un sourire de côté. » L'un est ce marmot de Carcoël, parti pour les grandes Indes. La malle pleine de l'or qui nous a gagné, on ne le reverra jamais. Et l'autre ? L'autre, fis-je étonné. Ah, l'autre, reprit-il avec un clignement d'œil qu'il croyait bien fin. Il y a encore moins de danger pour l'autre. C'est le confesseur de la comtesse. Vous savez, ce gros abbé de Trudaine, qu'ils ont par parenthèse nommé dernièrement au siège de Bayeux. Chevalier, lui dis-je alors, frappé d'une idée qui m'illumina mieux que tout le reste, cette femme naturellement cachée, qu'un observateur à lunettes comme le chevalier de Tarsis appelait hypocrite parce qu'elle avait mis une énergique volonté par-dessus ses passions, peut-être pour en redoubler leur âge bonheur. Chevalier, vous vous êtes trompé. Le voisinage de la mort n'a pas entr'ouvert l'âme scellée et murée de cette femme, digne de l'Italie du XVIe siècle, plus que de ce temps. La comtesse du Tremblay de Strasville est morte, comme elle a vécu. La voix du prêtre s'est brisée contre cette nature impénétrable qui emportait son secret. Si le repentir lui eût fait verser dans le cœur du ministre de la miséricorde éternelle, on n'aurait rien trouvé dans la jardinière du salon. Le conteur avait fini son histoire. Ce roman qu'il avait promis et dont il m'avait montré que ce qu'il en savait, c'est-à-dire les extrémités. L'émotion prolongeait le silence. Chacun restait dans sa pensée et complétait, avec le germe d'imagination qu'il avait, ce roman authentique dont on n'avait à juger que quelques détails dépareillés. À Paris, où l'esprit jette si vite l'émotion par la fenêtre, le silence dans un salon spirituel après une histoire est le plus flatteur des succès. Quel aimable dessous de carte que vos parties de whist, dit la baronne de Saint-Alban, joueuse comme une vieille ambassadrice. C'est très vrai ce que vous disiez. À moitié montré, il fait plus d'impression que si on avait retourné toutes les cartes et qu'on eût vu tout ce qu'il y avait dans le jeu. C'est le fantastique de la réalité, fit gravement le docteur. Ah, dit passionnément Mademoiselle Sophie de Rivistal, il en est également de la musique et de la vie. Ce qui fait l'expression de l'une et de l'autre, ce sont les silences, bien plus que les accords. Elle regarda son amie intime, l'altière comtesse de Damnaglia, au buste inflexible, qui rongeait toujours le bout d'ivoire incrusté d'or de son éventail. Que disait l'œil d'acier bleuâtre de la comtesse? Je ne la voyais pas, mais son dos, où perlait une sueur légère, avait une physionomie. On prétend que, comme Madame de Stasville, la comtesse de Navalilla, à force de cacher bien des passions et bien du bonheur. Vous m'avez gâté des fleurs que j'aimais, dit la baronne de Mascarni, en se retournant de trois quarts vers le romancier, et cassant le cou à une rose bien innocente qu'elle prit à son corsage et dont elle éparpilla les débris dans une espèce d'horreur rêveuse. « Oh, voilà qui est fini !» ajouta-t-elle. « Je ne porterai plus de réséda !»